France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
De Lesbos à Lampedusa pour soutenir les réfugiés venus d'Irak ou de Syrie devant le Parlement européen pour réveiller les consciences européennes en Turquie, en Israël, en Jordanie, au Brésil, à Cuba, au Mexique, aux États-Unis pour délivrer des messages de paix et d'ouverture avec ses JMJ à Cracovie. Le pape François, depuis 2013, entame son premier grand déplacement en Europe, berceau du christianisme dans la très croyante et conservatrice Pologne. Le pape argentin cherche-t-il ainsi à s'européaniser ? Poursuit-il aussi ainsi sa révolution ? Ou rentre-t-il au contraire dans les rangs? On va en discuter avec mes invités, Piotr Moschinski, journaliste à RFI et correspondant à Paris de la Gazeta Wyborcza, et Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, enseignant de théologie et d'histoire de la philosophie byzantine, toujours à l'Institut Saint-Serge, auteur notamment de « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient », un ouvrage qui est paru chez Fayard il y a 2 ans. Est-ce qu'il parle aux jeunes, ce pape François, Jean-François Colosimo?
Je crois qu'il parle sincèrement un peu à tout le monde, mais il parle aux jeunes effectivement par une proximité, par le fait qu'il a désacralisé la fonction et qu'il est dans un langage d'immédiateté, comme on le voit d'ailleurs chaque fois qu'il prend l'avion, il répond à vos confrères journalistes, parfois d'ailleurs un peu à ses dépens. Ce qui est intéressant chez ce pape, c'est un pape qui ramène des gens qui n'étaient plus dans l'Église, qui ne se voulaient plus catholiques, au catholicisme. C'est quelqu'un qui émeut beaucoup des gens qui ne se sentent pas liés au catholicisme. Et c'est un pape aussi qui affronte, il faut le dire, une certaine opposition au sein de l'Église catholique, au sein des épiscopats catholiques, au sein des institutions catholiques, particulièrement en Europe. Et sur la question des migrants, c'est la question symptôme. De ce malaise,
qui, les catholiques. Qui va, Jean-François, qu'on imagine retrouver au sein de la jeunesse, il parle à quelle jeunesse? J'aurais plutôt dû formuler la question comme ça. À quelle jeunesse?
Moi, je pense qu'il parle à cette jeunesse qui est véritablement dans un espace culturel assez mondialisé. Le fait qu'il soit un pape du Sud, un pape d'Amérique latine, parle à cette jeunesse qui a envie de s'engager et qui, elle, se sent reliée certainement à, je dirais, au grand désordre planétaire, que ce soit l'écologie, la misère, etc. Ce sont des jeunes qui sont très engagés dans l'Église, hein, ceux qui vont se rendre à Cracovie, et ils ont en fait aussi un grand besoin, je dirais, de structuration, d'encadrement. C'est ce que leur donnent les JMJ, c'est pas simplement festif. Hein, il y a aussi beaucoup de catéchèses, beaucoup de rencontres. C'est une manière pour eux de se ressourcer dans l'idée qu'eux-mêmes sont en mission. Ces jeunes-là, ils participent de l'idée de la réévangélisation du monde, d'une Église catholique qui essaie d'être aussi missionnaire, témoin, entreprenante. Ce sont des jeunes, je dirais, militants.
J'adore cette expression de vous, hein, Jean-François Colosimo, vous dites que c'est un pape anti-mur. Piotr, dites-nous à ce propos par rapport à la Pologne, Piotr Moschinski, est-ce que les thèmes qu'il entend développer durant ce déplacement, l'écologie, le respect des différences, l'idée de mettre une jeunesse en action, ça peut toucher ce cœur de cible, cette jeunesse polonaise?
Écoutez, la jeunesse polonaise est aussi divisée que la société polonaise en tant que telle.
Donc elle lui est pas naturellement ou entièrement hostile, elle est partagée sur cette figure papale.
C'est bien ça. En fait, la jeunesse polonaise est en train de vivre une sorte de dissonance cognitive à propos de l'Église, car elle connaît l'Église polonaise qui est... l'épiscopat n'est pas ouvertement... extrêmement conservateur. Il essaie quand même de garder les liens avec la réalité. Mais l'épiscopat tolère des voix qui sont très bruyantes et qui sont extrêmement conservatrices, elles, et donc qui brouillent l'image de l'Église par rapport aux fidèles. Et c'est pour cela que l'Église polonaise a cette image très conservatrice. Et maintenant, la jeunesse polonaise veut savoir ce que le pape François a à lui dire. Elle va confronter sans doute l'attitude de François avec celle de l'Église polonaise et de la société polonaise. Car par rapport, par exemple, aux réfugiés, il y a un conflit presque ouvert entre ce que pense un Polonais moyen et ce que demande le pape. La Pologne n'est pas du tout prête à accueillir les réfugiés. Les sondages montrent que la division est très profonde. Il y a 50% des Polonais qui sont pour, 50% qui sont contre. Donc il y a vraiment, c'est un sujet conflictuel et la jeunesse va certainement réagir à ce que dira le pape François pendant cette visite.
Les JMJ, c'est aussi une visite à la Pologne, hein, martèle le Vatican depuis quelques jours. Et en Pologne, on l'entend avec vous, le pape a fort à faire. La Pologne, c'est aussi le pays de Jean-Paul II. Le pape François peut-il, d'après vous, détrôner son illustre prédécesseur dans le cœur des Polonais?
Alors ça, c'est impossible.
Aucune chance.
Ça, c'est impossible. J'aurais envie de dire le plus grand défaut de François, c'est qu'il n'est pas Jean-Paul II. C'est un peu ça.
Donc en gros, qu'il n'est pas polonais. C'est ça.
En gros, oui, c'est ça. Le Polonais vit toujours un grand chagrin de Jean-Paul II, il faut dire.
Oui, pour eux, ça a été leur page de l'histoire, la fin du communisme.
Absolument.
Et l'accès à finalement aussi le retour sur la scène de l'histoire. Mais ce que je pense, c'est quand même les relations entre François et Jean-Paul II sont plus compliquées simplement que sur cette affaire polonaise. François, finalement, il n'arrête pas d'exalter Jean-Paul II, hein, qui a été canonisé, qui est Saint Jean-Paul II désormais. Oui. Il n'arrête pas de le mettre en avant, patron de la famille, patron, saint patron des JMJ. Mais en même temps, on a bien vu sur le synode la famille, la fameuse question des divorcés remariés, des couples libres, des homosexuels, que l'opposition à François, elle se revendiquait de Jean-Paul II contre François.
Et l'épiscopat polonais s'est clairement posé au moment des deux synodes sur la famille en gardien du temple moral qui avait été érigé par Jean-Paul II. Donc on l'entend, le pape François aura beaucoup à faire pour tenter de détrôner son prédécesseur et dans le cœur des Polonais, mais aussi dans l'esprit des Polonais. On va revenir à la Pologne et à cette visite du pape François, mais on a aussi avec nous par téléphone de Rome, Marco Politi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain italien, un vaticaniste, hein, comme on dit, auteur de François parmi les loups, un ouvrage paru aux éditions Philippe Ray il y a un an, dans lequel vous avez très tôt souligné les oppositions qu'encontre le pape dans sa tentative de réforme. Marco Politi, ce pape qui voyage, ce pape de la mondialisation, c'est d'ailleurs pour cette qualité que les réformateurs l'avaient choisi au départ. Il voulait un pape non européen et surtout pas italien. Avec ce premier déplacement dans la très conservatrice et croyante fidèle Pologne, est-ce que le pape argentin cherche, d'après vous, à s'européaniser?
Je pense en première ligne qu'il va venir dans un pays, en Pologne maintenant, où une grande partie de l'épiscopat tolère François. Parce que, comme on a dit, pendant la synode sur la famille, le président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Gadecki, avait dit qu'il y a le danger de s'éloigner de l'héritage de Jean-Paul II. Mais d'autre côté, c'est...
Tolérer, c'est pas un terme très encourageant, hein, si je vous entends
non,
bien.
Non, pas très encourageant. Mais comme on a dit, justement, avant des mois, la société polonaise est très divisée et certainement, les jeunes ne sont pas conservateurs comme une partie de l'épiscopat. Mais d'autre côté, je ne pense pas que c'est un problème pour les papes de s'européiser. C'est le premier pape de la mondialisation, c'est le premier pape qui n'est pas né et vécu dans un village polonais, dans un village bavarois, dans une petite ville italienne. Il vient d'une métropole de 13 millions d'habitants, il connaît toute la complexité de la société moderne et il a dit à l'Europe, à Strasbourg, mais aussi ici à Rome, quand il a reçu le prix Charlemagne, que c'est l'Europe qui doit retrouver son rôle dans le monde, qu'aujourd'hui l'Europe c'est vieille, c'est stérile, et qu'il y a les dangers que chaque nation se va mettre dans son enclos particulier. Et on a vu, après ce discours prophétique, qu'est-ce qui s'est passé avec la Brexit, qu'est-ce qu'il passe dans l'Europe de l'Est du groupe Visegrad qui ne veut pas accepter les réfugiés. Alors c'est plutôt ce pape qui peut donner des stimules nouveaux à l'Europe.
Des signes nouveaux à l'Europe.
À l'Europe de l'Est.
Mais il a quand même mis 3 ans, ce pape prophète, à se rendre en Pologne et à faire un premier grand voyage en Europe, hein, en dehors effectivement de Lesbos ou de Lampedusa. C'est son premier grand voyage européen. Pourquoi il a si longtemps tourné le dos quelque part à l'Europe?
Bien, il est allé dans des pays de l'Europe. Par exemple, il est allé en Albanie pour montrer qu'il y avait la possibilité de convivence entre différentes religions, entre différentes positions. Et certainement, il a préféré aller dans les pays de l'Afrique, dans les pays de l'Asie, dans les pays de l'Amérique latine. Alors ça, c'est son premier vraiment véritable voyage dans l'Europe. Mais je pense, comme j'ai dit, que c'est le moment où il veut que le christianisme en Europe soit plus actif, plus dynamique, qu'il y a une église moins cléricalisée, et l'église polonaise est très cléricalisée, mais il veut en même temps que l'Europe, les Européens, et surtout dans ce moment, les Européens des pays de l'Est, comprennent qu'il y a des grands problèmes que l'Europe doit résoudre. Il y a deux grands problèmes, c'est le problème de la déségalité, de la inégalité dans les sociétés du monde. C'est le problème du terrorisme. C'est le premier homme d'État, le pape, on peut dire, qui a parlé du phénomène du terrorisme comme une troisième guerre mondiale à morceaux. Alors on doit être à l'auteur de cet défi de l'histoire. Et le dernier grand problème, c'est le problème des réfugiés. Il a dit à Lesbos que c'est une catastrophe humanitaire la plus grande après la Seconde Guerre mondiale. Alors ce sont des défis et les peuples européens doivent être à l'auteur de ces défis. Et les peuples de l'Europe de l'Est doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre seulement encore dans l'idée du passé, d'une nouvelle nationalisme ou d'une nouvelle confrontation avec Moscou, mais ils doivent être européens.
Merci
beaucoup.
Pas seulement
européens pour avoir, disons, l'avantage, les bonnes conditions du marché commun. Être européen, c'est plus qu'avoir.
C'est pas simplement circuler sur le sol européen. Merci beaucoup, Marco Politi, d'avoir été avec nous ce matin. Jean-François Colosimo.
Oui, enfin, d'abord, il faut bien comprendre qu'un pape, il hérite aussi, je dirais, du programme de ses prédécesseurs. Rio s'était programmé pour Benoît XVI. Deuxièmement, en Europe, il n'y avait pas beaucoup de pays, de grands pays tout de même dans lesquels il pouvait se rendre. L'Allemagne s'était marché sur les pas de Benoît XVI, c'était un peu compliqué. En France, on vit une crise diplomatique avec le Saint-Siège, un mot couvert, feutré, mais malgré tout, c'est compliqué. Donc il restait l'Espagne ou la Pologne comme grand pays catholique. Alors évidemment, il y a une forme de défi, parce que cet homme de défi, c'est vraiment, se confronter à quand même à l'héritage de Jean-Paul II, non pas dans certainement d'une manière très contradictoire, mais il est évident qu'il y a des différences d'intonation, d'accent qui sont très très profondes quand même, c'est très profond ces différences entre ces deux papes. Et puis regardez, il a rencontré le patriarche Cyrille de Moscou à Cuba, n'est-ce pas ? Il a signé une sorte d'accord avec lui sur ces deux Orients que sont l'Europe de l'Est et que sont le Proche-Orient, où catholiques et orthodoxes sont combattus pendant très très longtemps. En quelque sorte, ils ont fait une paix armée tous les deux, le pape et le patriarche. Est-ce que ça plaît beaucoup aux Polonais ? Est-ce que ça plaît surtout beaucoup aux Polonais qui peuvent être de rite oriental tout en étant catholiques ? Ça n'est pas sûr. Là aussi, il bouscule profondément la perception géopolitique aujourd'hui de ces pays de l'Est, qui voit dans Poutine et dans la Russie un danger quasiment insurmontable, alors qu'on l'a vu, François, lui, peut-être parce qu'il est habitué un peu en Amérique latine à des relations fortes avec des pouvoirs autoritaires, lui, il n'a pas eu peur de rencontrer Poutine à plusieurs reprises.
Piotr Moszynski.
La confrontation avec l'héritage de Jean-Paul II, vous voyez très juste, c'est ce qui se passe à l'occasion de cette visite. Il faut quand même avoir en mémoire que François a des racines idéologiques très différentes de Jean-Paul II. C'est-à-dire, l'Église latino-américaine est soupçonnée en Pologne d'être carrément marxiste. Alors que Jean-Paul II est un véritable symbole d'anticommunisme, d'antimarxisme. Donc déjà à ce niveau-là, très profond, des racines idéologiques, il y a un véritable affrontement. Puis sur la question de la Russie, je ne pense pas que François soit perçu en Pologne comme pro-poutinien, pro-russe, je pense que pas du tout. Et ce n'est pas cette question qui va dominer dans l'évaluation de ce que François fait. Les Polonais eux-mêmes, en tant que société, en tant que nation, se rendent bien compte, malgré l'histoire, qu'il faudra travailler avec la Russie. Donc,
En dehors de ces enjeux géopolitiques, Piotr, on sait qu'il y a une voix qui est quand même très écoutée en Pologne, c'est celle de Radio Maria, une radio conservatrice catholique polonaise. Concernant ce pape François, quel message a-t-elle délivré, cette radio? Quelle position a-t-elle prise? Est-ce qu'il y a une campagne de dénigrement feutré concernant ce pape François, ou est-ce qu'il y a un début d'ouverture sur ces positions?
Radio Maria représente cette France du clergé polonais qui est résolument contre la conception de l'église des pauvres que François soutient très énergiquement. N'oublions pas que le fondateur et le directeur de Radio Maria, le père Rydzyk, roule en Maybach. C'est une des voitures les plus luxueuses du monde. Et il est vraiment spécialisé dans la collecte d'argent, donc il est très connu pour ça. Et donc c'est un contre-symbole par rapport à François. Et il n'accepte aucunement les leçons de modernité que François essaie de transmettre.
Une question quand même aussi, pardon, sur les réfugiés. Vous avez évoqué cette question l'un et l'autre. Est-ce que sur ce point-là, hein, le pape est sans ambiguïté? Vous l'avez rappelé, il a délivré des nombreux messages d'accueil, de solidarité et sur les lieux même de leur arrivée, des réfugiés, des migrants syriens, irakiens, afghans. Il a aussi choisi d'inviter au Vatican des musulmans syriens, ce qui était un signe fort, et appelé les paroisses catholiques à en faire de même. Là où la Pologne est extrêmement rigide, hein, sur cette question, Varsovie ne veut pas entendre parler des quotas de répartition qui ont été élaborés par Bruxelles et depuis les attentats de mars dernier refusent ouvertement, publiquement d'accueillir des réfugiés sur son sol. Est-ce que là le pape François, Jean-François Colosimo, peut forcer le débat? Est-ce que la diplomatie vaticane qu'il incarne est suffisamment puissante aujourd'hui pour infléchir les positions d'un gouvernement comme le gouvernement conservateur polonais et lui soutirer des engagements sur cette question?
Le gouvernement conservateur polonais, c'est le gouvernement qui accuse Lech Wałęsa d'avoir été un espion communiste et faire de Wałęsa le symbole du communisme. Je pense que ce gouvernement-là, il sera pas très sensible aux arguments du pape sur les réfugiés. Mais en revanche, le pape peut provoquer un mouvement d'opinion. Et ça va commencer d'ailleurs par une séance, c'est très important, à huis clos avec l'épiscopat polonais. Et vraisemblablement, ça va être un moment d'explication assez fort. Or, finalement, c'est un peu comme Radio Maria, a fortiori pour les évêques qui sont pas Radio Maria. Les catholiques, comment ils se définissent? Ils peuvent ne pas aimer leur pape, mais peuvent-ils ne pas finalement lui obéir? En tout cas, ils ne peuvent pas se mettre en dissidence par rapport à lui. Et ça, François sait très bien en jouer, justement, on le disait tout à l'heure, pour faire reculer les frontières, reculer les murs. En même temps, il adresse un autre message sur les migrants à la Pologne, qui est un message qu'il adresse à l'Europe, c'est qu'il faut que les nations riches du Nord puissent assurer aussi la vie des gens au Sud. Parce que si, finalement, ce que dit le pape, et c'est la doctrine qui préside à Rome, n'est-ce pas, si on veut éviter des migrants, si on n'en veut pas, eh bien il faut un effort de solidarité nord-sud, dans ce cas-là, assez conséquent, pour que les conditions de vie, hors même les guerres, hors les famines, hors les épidémies, soient des conditions de vie viables au sud. C'est ça un grand message. Pologne, assez frileuse aujourd'hui, très impliquée dans l'OTAN, malgré tout, très défensive. Vous disiez tout à l'heure, cher Piotr, que les Polonais s'entendront un jour avec les Russes, mais on a l'impression quand même que les Polonais le veulent bien, mais le plus tard possible.
Piotr Moszynski, le mot de la fin, parce qu'il nous reste une toute petite minute.
Il faut juste dire que le gouvernement polonais a quand même un véritable problème avec les réfugiés, c'est que la société polonaise est très homogène. Il n'y a pratiquement pas de minorité nationale. C'est une société qui ne sait pas ce que c'est et quelqu'un qui vient de l'extérieur. Elle ne sait pas gérer ses relations avec ceux qui viennent de l'extérieur. Il faut qu'elle l'apprenne. Et ça prend quand même beaucoup de temps.
Et forcément, ce spectre du grand remplacement qu'on peut aussi retrouver dans la Hongrie de Viktor Orban. Hein. C'est toujours la peur des mélanges, hein, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ça, mais c'est justifié historiquement.
C'est aussi la raison, Piotr, c'est une inaptitude aussi, puisque c'est une société qui a longtemps été très fermé et très homogène, oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Piotr Moschinski et merci à vous Jean-François Colosimo. Qu'est-ce qu'on attend en un mot du coup de ce déplacement? Une volonté d'unifier, de rassembler et, un dernier mot clé, Jean-François?
Peut-être aussi d'adresser un message sur ces questions de peur face à la terreur. Et peut-être d'avoir une parole là-dessus qui dépasse les paroles politiques, on l'espère en tout cas.
Alors le pape anti-mur, faire tomber le mur de la terreur.
Et anti-terreur, oui.
Merci.